Vive l'irrégularité. Première partie. Il s'agit de la 24e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Nous nous trouvons pour la seconde fois dans le Limousin, dans le cadre d'une rencontre régionale organisée les 9 et 10 novembre 2018 par le RAF, le Réseau pour les alternatives forestières. Lors de la première rencontre à Ned en septembre 2014, nous avions constaté à quel point la forêt y représentait un sujet conflictuel, notamment sur le plateau de Millevaches, où une grande partie de la population a le sentiment de subir les sombres plantations monospécifiques de résineux. Nous voilà donc de retour. La controverse venait de trouver une expression publique grâce au film « Le temps des forêts » de François-Xavier Drouet qui habite sur le plateau. Ce film propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle en démontrant ses conséquences sur l'environnement, mais il donne aussi la parole à des personnes portant une vision alternative. La question y est clairement posée. Forêt vivante et irrégulière, riche en biodiversité et à couvert permanent, ou des déserts boisés constitués de monocultures d'une régularité affligeante avec des arbres ayant tous le même âge et taille, des espaces sans oiseaux ni faune sauvage. De très nombreuses projections de ce film ont eu lieu dans des villages et villes du Limousin. Dans cette première émission, nous partons en balade dans une forêt à Fétia, dans la Haute-Vienne. Son propriétaire cherche à assurer une gestion sylvicole douce et irrégulière, à l'opposé du modèle qui domine dans la région, pratiqué notamment par les grandes coopératives forestières. Il a accordé la gestion à Hans Kreisler et Loïc Bonneau, qui font partie du collectif forestier Environnement Limousin. Écoutons Hans Kreisler, qui explique sa vision de cette forêt qui nous entoure et sa manière d'aborder sa gestion. Il évoque d'abord sa rencontre avec le propriétaire de la forêt.
Ce qui m'avait surpris quand on s'est rencontrés, il y a 2-3 ans, c'est que le gestionnaire avant, c'est une coopérative, n'avait pas donné au propriétaire l'impression qu'il avait une belle forêt. Il avait vraiment donné l'impression que c'était une forêt qui était plutôt médiocre. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, qui coûterait tout le temps. Alors, le propriétaire m'a bien raconté qu'il s'excusait que sa forêt n'était pas meilleure et qu'il ne savait pas si on pouvait proposer quelque chose. Et je trouvais ça, comment dire, comme impression, ce qui avait sédimenté dans sa tête, qu'il était un malheureux propriétaire d'une forêt qui ne valait pas vraiment le coup, je ne sais pas, et il m'a montré ça et je dis non, si, moi j'ai des propositions à faire. J'aimerais bien avoir votre jugement et vous allez me dire si c'est une bonne action du gestionnaire de donner au propriétaire l'impression que sa forêt elle est tout juste bonne à être transformée, c'est-à-dire remplacée par des nouvelles plantations. En gros, c'était un peu le projet. Voilà. Alors, c'est un peu une idée... Enfin, des questionnements sur comment peut-on convertir une forêt en futaie irrégulière ou en futaie à couvert continu. Et ici, on a des exemples de problèmes qui se posent régulièrement dans une forêt qui n'a pas été gérée dans cet esprit ou qui n'était pas spécialement gérée du tout. Beaucoup de forestiers qui n'ont pas l'habitude de cette méthode, ils ont l'impression qu'ils doivent tout régler la première fois. Eh bien non, on règle chaque fois une partie et on laisse une partie des problèmes à son successeur, comme moi, qui va me mettre à la retraite. Je suis très content, je laisse les problèmes à mes successeurs. Si on veut faire une gestion irrégulière, Il ne faut pas avoir peur de faire des trous. Il ne faut pas non plus faire des trous trop importants. Mais il faut des trous pour créer la dynamique, pour créer justement des irrégularités. Il faut qu'il y ait des endroits qui soient mis à nu, mais il faut qu'elles restent petites. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des trous en forêt. Le meilleur exemple que je vois, c'est suite aux tempêtes. Quand un arbre est tombé, ça fait un trou. Et puis en fait, des fois, c'est des arbres isolés, donc on ne vient pas tout de suite, on vient quelques années plus tard dans le coin. Et on se dit, mais comment il a pu passer? Parce que la nature a tellement vite rempli le trou que ça paraît impossible. Donc, l'abattage d'un arbre, ce n'est pas ça qui fait vraiment beaucoup de mal. L'abattage de tous les arbres, ça fait beaucoup de mal.
Et les résineux autour, alors? Quelle gestion des Douglas?
Voilà, alors le grand avantage d'une forêt mélangée, c'est qu'on peut faire des trous sans crainte, parce qu'il y a une multitude d'essences que nous avons. Nous avons donc du pectiné, nous avons du Douglas. Nous avons quelques grandis qui restent parce qu'il y avait un peuplement de grandis là-bas qui a disparu. Donc il y a un peu de régénération de grandis. Donc on a aussi quelques pins là-bas. Enfin, on a différentes essences résineuses. On a le chêne, le charme, le hêtre, le châtaignier. Les chênes, j'ai l'impression qu'on a donc dans les chênes autochtones, il me semble qu'il y a aussi quelques séciles. Donc on a les deux chênes, on a deux chênes rouges, on a un joli mélange d'essences qui sont des essences de lumière, des essences d'ombre, ça se mélange parfaitement, j'ai pas de crainte. Et puis si jamais, il y a un trou qui ne se régénère pas convenablement pour une raison ou une autre, rien n'empêche de planter quelques arbres en plus. Si on le veut. C'est pas, comment dire, il ne faut pas être fixé sur la régénération. Il y a beaucoup de gens qui pensent que plus tu es irrégulière, c'est régénération naturelle. Mais la régénération naturelle, c'est ça vient, tant mieux, ça ne vient pas, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que les plus beaux arbres aient le temps et l'espace pour s'exprimer. Voilà, c'est ça le fond de la question. C'est de ne jamais être pressé par un soi-disant rationalité de la coupe que parce qu'il y a trois arbres qui sont à maturité qu'il faut couper tous les autres. C'est un peu absurde. Et surtout, la cohabitation entre des arbres de différentes essences, en fait, rend plus beaux les arbres de toutes les essences. C'est ça qui est intéressant. En principe, on règle les rotations, on passe tous les 10 ans au moins, des fois un peu plus vite. Ici, je pense qu'on est un peu chargé dans cette forêt. Il y a un peu trop de charge pour le moment. Donc, il faut peut-être prélever un peu au-delà de l'accroissement. Mais la règle, normalement, le guide, c'est qu'il faut exploiter autant de bois, enfin, il faut prélever autant de bois qui a poussé. Comme ça, on reste à peu près à un équilibre. Alors après, quand on a l'impression que c'est un peu trop dense, ben on prélève un peu plus. On peut le mesurer, hein, ça, et c'est pas obligé de faire ça au pif. Moi, j'aime beaucoup le pif, mais bon, des fois, c'est mieux de le mesurer. Et puis, quand on a l'impression que c'est un peu clair, alors là, c'est pas seulement le pif, c'est que quand il y a trop de ronces, trop de graminées, etc., à ce moment-là, il faut laisser, il faut attendre un peu plus ou prélever un peu moins. Comment dire, après coupe, il faut qu'on soit au même volume à l'hectare qu'on était après coupe la dernière fois. Hein? Ça fait un dent de scie, une scie comme ça, hein? L'évolution du volume. Et le miracle de cette méthode, c'est que chaque intervention rapporte du bois. On récolte du bois et ça se vend. Normalement, ça ne coûte rien, hein, cette intervention, ça rapporte quelque chose au propriétaire. Bon. Mais non seulement ça, mais la production de valeur par la suite va être meilleure. Alors on gagne sur les deux tableaux. On gagne une fois sur le prélèvement et une autre fois sur la production de valeur qui est meilleure.
Et donc, même financièrement, vis-à-vis du propriétaire,
on n'est pas trop inquiet. Hein, on sait que les interventions qu'on va proposer, non seulement on peut lui assurer un revenu acceptable pour la forêt, mais en plus, les intervenants aussi peuvent gagner normalement leur vie. Ce n'est pas une forêt où il faut s'inquiéter à chaque geste, mais comment je vais faire pour trouver la combinaison pour éviter que ça fasse trop cher. Voilà.
Je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et au complément de régénération.
Oui.
Ça peut être un élément intéressant parce que parmi les critiques qui sont faites à la futaie jardinée ou à la futaie continue, la forêt continue, etc., c'est justement d'utiliser toujours le matériel génétique et d'avoir un appauvrissement. Et j'ai vu une futaie jardinée dans le Puy-de-Dôme où effectivement on faisait un complément de par plantation, ce qui finalement permettait de contrer cet argument génétique.
Voilà. Oui. Alors, la génétique, enfin, moi je suis allemand, d'où mon accent, et je suis né peu de temps après la guerre, et pour moi, les explications génétiques sont toujours douteuses. Bon. Mais je me rends bien compte que, forcément, la génétique, je ne peux pas non plus la nier, hein, ça existe. Maintenant, il y a des nouvelles découvertes sur la génétique qui nous prouvent que, ou qui tentent à prouver que, il y a pas que le programme génétique purement, strictement, neutre qui s'exprime. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a une telle multitude de croisements possibles. Et en plus, on découvre actuellement sur les végétaux qu'il y a des mutations permanentes sur le végétal qui font que le même arbre peut propager des génomes différents. Donc, pour le moment, ce n'est pas ça qui m'empêche de dormir. Je crois qu'on a vraiment des sujets plus évidents et moins discutables à traiter avant de dire, le génétique de ma forêt n'est pas bon.
Je crois que ce qui est important pour rebondir sur ce que disait Bernard, c'est moins sur le côté génétique, mais sur le côté, possibilité de transformation aussi d'une forêt. Parce que ce qui est important, c'est aussi la station, c'est-à-dire là où ça pousse. On peut avoir des cas où on a des chênaies abondantes, mais avec des chênes qui ne sont pas, par exemple, en station, qui ne produisent pas des bois de qualité, ou... pour produire du bois de qualité, on va être amené peut-être à mettre d'autres essences qui seraient plus productives et où on peut par contre faire la même méthode que tu fais par enrichissement successif, c'est-à-dire améliorer sa forêt simplement en substituant petit à petit une essence objective par rapport à une en place, tout en gardant celle en place parce qu'elle joue un rôle culturel, même si elle n'a pas un rôle objectif, elle a un rôle culturel, et de transformer petit à petit une forêt en implantant des essences qui n'y étaient peut-être pas au début, mais qui nous semblent propices au terrain, au climat, à l'exposition qu'on a. Et sans passer par la coupe rase globale et la replantation, surtout la coupe rase globale, l'intérêt d'un enrichissement comme ça en trouée, c'est qu'on ne malmène pas le sol, ou très peu. Et on garde surtout une ambiance forestière, un couvert forestier, qui favorise aussi l'éducation des nouvelles tiges et des nouveaux plants. Alors que sur une plantation classique avec nettoyage du terrain, on a des plants qui sont, pendant un bon bout de temps, pas accompagnés et qui donc subissent des dégâts de gibier, des branchaisons énormes, où il faut intervenir constamment. On intervient moins dans les enrichissements, souvent. Ils se débrouillent un peu tout seuls.
Si on se trompe dans une plantation, oui. On s'est trompé sur l'ensemble. Si on se trompe dans l'enrichissement, ça se répare quasi spontanément parce que si on s'est trompé, c'est que ça ne marche pas.
Je voudrais vous demander comment vous sortez les bois avec, avec des machines.
Non.
Mais il est costaud, quand même.
Non, moi je ne suis pas spécialement effrayé par des machines. Ça ne me dérange pas trop, c'est pour ça qu'on fait des cloisonnements. Ce qui m'inquiète tout de même, c'est qu'il y a une tendance à faire grossir davantage les machines que les bois. Et ça, ça m'inquiète. Hein, plus les bois sont petits, plus les machines sont grandes.
C'est pour ça, je pense qu'on a mis les forêts au service des machines, alors que ça devrait être le contraire.
Oui, oui, ça c'est évident. Pour faire une forêt, ça commence à s'appeler une forêt quand ça a 50 ans à peu près. Pour construire une scierie, il faut 5 ans. Pour construire une machine, il faut, pour la concevoir et tout ça, peut-être 5 ans aussi. Hein? Comment dire, la proportion n'est pas la même. Donc la priorité, évidemment, à la durée longue et pas à la durée courte. Ça me paraît...
Du coup, ce qui définit une forêt, c'est le temps de la présence d'arbres sur un espace ? Dans le temps, ou oui, c'est le même. Nombre d'arbres sur un espace ?
Ah non, c'est la permanence d'un couvert forestier qui fait l'âge de la forêt. L'âge de la forêt, c'est pas l'arbre le plus vieux.
Oui.
Non, c'est... on peut avoir une très vieille forêt avec des arbres qui ne sont pas si vieux que ça. Mais si ils se sont toujours donné la main, sans jamais avoir disparu complètement, il y a une continuité forestière.
Est-ce qu'il y a une définition au niveau du couvert par je ne me souviens plus, mais à partir de 20% de couvert du houppier, c'est une savane, et à partir de 30% de couvert, c'est considéré comme une forêt.
Oui, alors est-ce que c'est considéré de quel point de vue ? Parce que forêt, on peut en parler d'un point de vue... fiscal, d'un point de vue légal, d'un point de vue écologique, etc. Enfin, il y a énormément d'approches, même de promenades ou de chasseurs. Hein. Il y a toutes sortes d'approches possibles d'appeler quelque chose une forêt, et ça diffère énormément. Hein. Légalement, par exemple, une parcelle qui a un projet forestier est déjà une forêt.
Juste pour dire, une coupe rase replantée avec des jeunes plants de pin maritime, c'est pas une forêt pour moi, parce que mais légalement c'est une forêt. Oui,
exactement.
Oui.
Hein? Et fiscalement aussi d'ailleurs.
Oui.
On peut poser la question, est-ce qu'une plantation mature de monospécifique, c'est vraiment une forêt ?
Ça, c'est encore une autre question. Toutes les questions sont permises.
C'est pas mal.
Alors surtout dans une forêt qui n'a pas beaucoup de gestion, une fois qu'elle est mieux hiérarchisée, quand il y a une meilleure hiérarchisation entre les arbres, c'est plus facile après. Mais les premières interventions, c'est compliqué. Parce que, bon, par exemple, là, vous voyez les trois chênes là. Hein, il y en a un qui est tout droit. Son voisin, il est légèrement penché. Et puis l'autre voisin, il est encore plus penché. Voilà, on ne peut pas tout régler du même jour. Et en plus, il n'y a pas d'urgence non plus. Hein. Alors, pourquoi on a marqué le premier, je ne me rappelle plus. Il y avait une bonne raison. Non, je crois qu'il est gélif en plus, derrière. Oui, il a pratiquement pas de houppier. Ouais. Et puis, on a élu celui-là. Alors, dans la gestion du chêne, en fait, c'est tout bête. Il faut commencer à chercher son premier élu. Bon, pour être éligible, il faut être sain du corps et d'esprit, c'est-à-dire il faut avoir un bel houppier, c'est l'esprit, il faut avoir un corps sain, il ne faut pas de gélivure, pas trop de dégâts, hein, un chêne le plus beau possible, et puis on regarde où est son concurrent le plus agressif. Et c'est celui-là qu'on enlève. Et puis on s'en va, on ne fait rien d'autre, surtout pas. Parce que si on veut enlever le premier concurrent, le deuxième, le troisième, le chêne... C'est un petit bourgeois. Il n'aime pas les changements. Il veut que le monde reste tel qu'il est. Et nous, on veut des changements. Et donc, il faut toujours négocier. Et on négocie mieux si on lui dit « j'enlève que celui-là, après tu seras tranquille. » Pour quelques années. Mais en fait, c'est pour son bien. Hein. C'est pour son bien, mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on aille trop vite. Il faut aller doucement, et pour le forestier, des fois, c'est compliqué de se retenir, parce qu'on voit un défaut, puis un autre, et encore un. Et si on va en forêt pour chercher les défauts, en général, il ne reste pas grand-chose debout. Hein. Ce n'est pas la bonne méthode. Il faut chercher, d'abord, il faut élire un arbre. Et après, il faut travailler à son profit.
Moi, ça m'affamerait, c'est-à-dire que j'entends que ça produirait du bois rectiligne majoritairement. Et je pense que c'est clairement ce qui occupe l'esprit aujourd'hui, et quelque part heureusement, parce que c'est très cohérent et ça simplifie tout le travail derrière. Mais moi, aujourd'hui, cette forêt, elle m'affamerait dans la charpente. C'est-à-dire que c'est la première courbe que je vois et je me dis « Ah, enfin, j'ai un pied d'arbre à l'étrier cintré, quoi. Yes, j'en ai un, quoi. » Et sauf que je ne peux pas le couper en deux pour en faire une paire. Donc, bon, j'ai même pas une ferme complète. Donc, j'ai une demi-ferme un peu biaise, là. C'est sympa.
Je te comprends et je trouve ça super parce que ça nous donne des ouvertures qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas. Pour moi, l'arbre idéal, c'est un arbre droit. Bon. Mais... Disons, les gens qui voient la forêt comme moi sont majoritaires par rapport aux gens qui voient les forêts comme toi. Et les utilisateurs aussi. Hein. Je t'assure, je te promets, tu auras toujours assez de bois
tordu.
Tu peux compter sur moi.
Mais est-ce que tu travailles parfois avec des charpentiers qui viennent dans la forêt?
Écoute, j'ai déjà eu contact avec des gens qui voulaient des bois courbes, c'est vrai, mais c'est depuis peu, en fait, hein, que j'entends parler de ça. Je trouve ça tout à fait intéressant. Il est vrai que dans les vieilles charpentes, on voit des fois des bois bizarres utilisés, des bois qui ont des fourches, des bois qui sont tordus. Et pour moi, c'était toujours un peu la preuve que c'était un pays pauvre en bois. Alors j'ai vu ça dans le sud de l'Ardèche, où j'ai vécu un moment, où il y a effectivement des bois, des chênes droits.
Ça n'existe pas.
Quand tu vois les dessins des charpentiers de marine, oui, qui te font les dessins, où ils prennent les pièces de bois dans les chênes, tu vois que toutes les parties des chênes, finalement, sont utilisées. Quoi, hein.
Les branches,
ouais. les fourches, etc. C'est assez étonnant.
Aujourd'hui, la démarche, c'est de produire un matériau le plus... normalisé à la sortie du bois, le plus standardisé, alors que nous, la standardisation nous enlève plein de solutions, dans le cas de la rénovation par exemple. Il y a des moments où on est un peu coincé et on aurait besoin que notre arbalétrier il vienne choper la panne juste en dessous et qu'il se déporte de 20 cm. Et là, on passe un temps fou dans le parc à bois à dire non, pas celui-là, non, pas celui-là, là, ah, peut-être là ça peut coller. Mais du coup, si la matière première qu'on a elle est standardisée, nous on est marron. Bon bah...
La question qui se pose souvent, mais un propriétaire privé, il ne peut pas se permettre d'attendre 150 ans, 200 ans pour récolter un arbre. Eh bien, c'est vrai quand il s'agit de futaies régulières. Parce qu'il faut qu'il attende le jour J. Alors c'est pour ça que dans le plan de gestion précédent de ce plan de gestion, ils avaient fixé le diamètre d'exploitabilité du chêne à 50. Et 50, c'est... Bon, 50, c'est le chêne qui est marqué en bleu, là. Hein. Oh, c'est un 45, peut-être. L'autre, le rouge, il doit être 50. C'est à peu près ça. Eh bien, non. C'est... Je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est à partir de 50 que le chêne commence vraiment à prendre la valeur. Mais en futaie irrégulière, on s'affranchit totalement du temps, puisque... Chaque fois qu'on intervient, on récolte. Mais on laisse toujours de la récolte pour plus tard et on prépare la récolte. C'est une chaîne sans fin. Tout à fait au bout, on prélève les arbres qui sont arrivés à maturité. Ça ne sera jamais beaucoup, mais ils seront vraiment matures. Et avec ça, on prépare les élus suivants. Et il faudrait que la chaîne des élus soit, dans l'idéal, ininterrompue. C'est rare, hein, qu'on arrive. En général, il y a un trou quelque part. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'étais l'année dernière en Allemagne pour une excursion, justement, pour la gestion du chêne. Et eux, ils avaient fixé l'objectif, c'était 180 ans. Et puis, ils ont calculé que s'ils attendaient après, une fois que le chêne est achevé à 180, de lui donner encore 60 ans de plus, ça doublait sa valeur. Donc, le choix est vite fait.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait par rapport à... On a vu le petit espace là-bas, maintenant cet espace-là. Mais du coup, ça ne doit pas être facile d'avoir conscience de l'ensemble de la forêt.
C'est vrai. C'est le gros défaut de la futaie régulière. C'est pour ça que des gens un peu... qui aiment les choses rationnelles, disent ben, « on va rationaliser ça hein ». Mais en fait, pour celui qui travaille dans cette forêt, en fait, c'est très plaisant de faire ça par bouquet et de passer un autre bouquet, de passer un peu à autre chose, de marquer quelques pectinés, après de marquer quelques chênes, c'est reposant. Alors j'aime beaucoup que lui, quand il dit charpentier, j'aime beaucoup que quelqu'un me dise « moi j'aurais besoin de 10 chênes de telle dimension ». Et à ce moment-là, je vais dans ma forêt et je dis, voilà, bon, où est-ce que je vais les trouver? Et c'est très bien, j'adore ça. Malheureusement, c'est rarement la situation. Quand c'est cette situation-là, en plus, quelqu'un qui a une demande précise, en général, il a prévu aussi de la payer. J'aime bien la forêt épicerie.
En rénovation du bâti, surtout sur du bâti de pays où c'est beaucoup de bois équarri ou de bois tordu, du bois tout venant, nous la difficulté c'est de constituer notre stock de bois, c'est-à-dire de choisir qu'est-ce qu'on va choisir de couper ou pas. Idéalement notre stock s'il pouvait être sur pied, si on pouvait, une fois qu'on a un débit, une commande, qu'on a vraiment à peu près les choses en tête, aller dans la forêt en disant « ok, ça pourrait faire pour ce chantier-là, celui-là aussi, ok, après pour celui-là il y aurait ça, ça et ça ». Ça serait idéal. Et c'est historiquement, dans un passé qui n'est pas si lointain, ce qui se pratiquait avec la question de cernage du bois et compagnie. Il y avait aussi ces questions-là. Mais...
Bon, je vais prendre ma retraite, mais ce sont des choses, j'en ai fait comme ça, et j'aimerais, nous y travaillons, hein, pour essayer d'avoir plus de clients potentiels pour ça, et d'avoir toujours un magasin bien rempli. Et je n'ai pas encore vu le propriétaire qui a refusé quand je lui ai dit « Vous êtes prêt à vendre 5 chênes ?» Jamais il dit non, hein, parce qu'il est fier déjà que c'est lui qui a les chênes, qui est propriétaire des chênes qui, justement, sont recherchés pour ça.
Ben moi, je suis du bois droit, il y en a plein, et ça nous intéresse quand même beaucoup, et du bois tordu, il y en a plein. C'est planitaire, c'est plat. Moi, je suis en Aveyron, les bois, ils sont comme ça. Non, là, c'est sûr, moi, je ne sais pas où donner de la tête, là. Il y aurait plein de choses à faire.
Quand tu as des ventes de bois comme ça, enfin quand tu viens de faire ton marquage et que tu vends tes bois, alors je suppose que ça n'intéresse pas forcément tout le monde d'avoir de l'épicerie, justement ce que tu disais. Mais il faut aussi le vendre bien le bois et qu'il soit utilisé dans les bonnes cases et que ce ne soit pas du gaspillage comme on voit tous les jours au bord de route, des bois qui partent entièrement au papier ou au broyage. Comment tu gères ta vente de bois? Un portefeuille, entre guillemets, de gens qui seront intéressés par ce genre de choses ou pas?
Alors, je ne sais pas. Je n'ai jamais prétendu d'être le meilleur, le meilleur commercial. Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit de faire cette épicerie occasionnelle. Mais évidemment, ça ne permet pas de... Voilà, on ne peut pas tout faire avec ça. Autrement, dans les forêts mélangées, souvent, je fais une vente feuillue et une vente résineuse séparée, si c'est possible. Ou je m'adresse à un exploitant, un petit exploitant, qui du coup aime bien faire l'épicerie, parce que c'est un peu leur créneau. Entre les gros, il y a les petits qui ont ça. J'aime beaucoup travailler dans un esprit de partenariat. C'est-à-dire que je ne cherche pas à tout prix à obtenir le meilleur prix, mais je veux travailler dans la continuité, autant avec les bois qu'avec les exploitants forestiers. Et je suis très content qu'il y ait maintenant des nouveaux autour de moi qui cherchent de nouveaux partenariats. Il y a aussi que mes partenaires commencent à être vieux. parce qu'ils avaient à peu près le même âge que moi, et eux aussi prennent leur retraite. Comment dire, c'est un peu au cas, et je fais beaucoup aussi dans les forêts où c'est nécessaire, où je travaille avec plusieurs propriétaires, le même exploitant chez plusieurs propriétaires, ce qui permet de regrouper des chantiers qui sont un peu semblables pour apporter l'effet de masse qui est nécessaire pour obtenir des fois de bonnes conditions. Tout simplement parce que pour déplacer un engin ou pour déplacer des bûcherons, etc. Enfin bref, les bûcherons, c'est plus facile à déplacer en principe que les engins. Pour déplacer un engin, il faut avoir un minimum de temps de mètres cubes à traiter. Là, on a travaillé ici avec Loïc ensemble et on a fait appel à un exploitant forestier qui est quelqu'un qu'on connaît bien et qui comprend bien notre démarche. Et si mes souvenirs sont bons, mais là, il faudrait que je demande à Loïc. Je crois qu'il veut exploiter ici les quelques résineux qu'il va y avoir en manuel. C'est un peu plus cher, mais du coup, il n'y a pas besoin de faire appel à une machine et de nourrir la machine, du coup. Voilà.
Et du coup, localement, tu trouves des bûcherons, des chauffeurs d'abatteuses et des bûcheurs.
On a un réel problème, là, tout de suite. Tout de suite. Ça s'est peu à peu érodé, disons. Mais il faut dire aussi une chose, il faut reconnaître une chose. À force de vouloir vendre toujours au meilleur prix, c'est le maillon faible qui cède. Hein? Et le maillon faible, c'est les bûcherons en général. Et donc, moi j'étais bûcheron il y a 37 ans, pendant quelques années, j'ai bûcheronné. Et j'étais payé sensiblement au même prix que sont payés, au même prix, hein, converti de francs en euros, que sont aujourd'hui les bûcherons. C'est juste pour vous dire qu'on attend aujourd'hui d'un bûcheron un travail pour des conditions pas vraiment humaines.
Tu dis que tu pars à la retraite, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent comme toi? Enfin, il en faudrait...
C'est compliqué parce qu'on ne peut pas avoir de conseil en retraite. Ça je ne l'ai pas trouvé. Je ne savais pas comment faire. Et puis, l'idée lumineuse, enfin lumineuse, on verra bien si elle est lumineuse. Il s'était créé tout un groupe de gens qui ont un peu des idées semblables et qui sont plus jeunes que moi. Et on s'est réunis. Et je leur ai dit, voilà, j'ai tant d'hectares à distribuer. C'est pas ma propriété, c'est la propriété des propriétaires. Il faut déjà que les propriétaires soient d'accord. Mais si vous voulez, on essaye et on travaille pendant 2 ans en binôme. Et puis peu à peu, je passe. Et finalement, pour le moment, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, je veux dire, les cimetières sont remplis de gens indispensables et il ne faut pas se croire indispensable. Et à la fois, je suis très attaché à mes forêts et je suis très attaché à mes clients. Et pour le moment, tous les clients auxquels j'ai présenté la situation étaient enchantés.
Légèrement derrière, parce que c'est difficile à trouver le moment pour...
Non, mais là, il faut...
Non, c'est super, mais... Alors, est-ce que je l'ai toujours en route, là? Oui. Alors, Philippe, on s'est rencontrés il y a 4 ans à Ned, et c'est une époque importante pour vous. Vous êtes propriétaire de pas mal de forêts ici, en Limousin, et vous avez pris une décision... disons assez, pas évidente peut-être, assez courageuse peut-être, je ne sais pas, en tout cas pour complètement changer le système de gestion, enfin en partie en tout cas, de vos forêts, non?
Oui, ma forêt est grande et dans cette forêt, j'ai choisi d'en changer complètement la gestion d'un cinquième, c'est-à-dire de 50 hectares sur les 260, les 50 hectares des arbres qui sont les plus mûrs, j'ai choisi d'arrêter de les traiter comme des morceaux de bois, mais comme un ensemble, qui est une forêt. Alors, ce n'est pas un choix que j'ai fait du jour au lendemain. Hein. Il m'a fallu du temps, parce que j'ai appris la forêt, qu'une forêt, ça se traite de la façon suivante. On a un terrain nu, un jour on plante, 20 ans après on éclaircit, puis on fait tous les 10 ans une éclaircie à nouveau. Et quand les arbres ont atteint 50, 60, 80 ans, on coupe tout et on recommence, plantation, etc. Bon, c'est comme ça que j'avais appris la forêt. Et il a fallu que je rencontre des personnes qui disaient que ben non, c'est peut-être pas une façon de traiter une forêt qui est la meilleure, tant du point de vue de l'équilibre écologique que pour le propriétaire lui-même.
Bon, juste pour préciser, c'est donc des monocultures résineuses, c'est 50 hectares que vous avez décidé de un peu diversifier, c'est ça?
C'est 50 hectares d'essences différentes. Mm-hmm. Il y a des épicéas qui ont 70 ans actuellement à peu près. Et il y a des Douglas qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont 50 ans à peu près. Mm-hmm. Il y a des sapins, il y a des mélèzes. Enfin bon, il y a toute une variété d'essences différentes, mais toutes résineuses. Là où je suis, il n'y a pas beaucoup de feuillus qui poussent correctement, bien que je commence à mettre des feuillus aussi. D'accord. Je change aussi complètement les essences. Donc j'ai appris en rencontrant des personnes, des bûcherons, des gens qui réfléchissent à l'écologie de ce plateau de mille vaches. C'est en rencontrant ces gens que j'ai fini par comprendre que la forêt traitée cycliquement, c'est plus une forêt, c'est une machine à produire du bois. Donc j'ai confié à des gens en qui j'ai confiance de dessiner un petit peu ce que pourrait être l'avenir de ces 50 hectares. Et dans ces 50 hectares, bien on va intervenir de façon cyclique, morceau par morceau, tous les 5, 6, 7 ans, en faisant exactement une gestion qui permet d'avoir une forêt, un couvert continu de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne va jamais supprimer la forêt. On choisit à l'intérieur d'un boisement les arbres dont on pense qu'ils ont de l'avenir. Et puis on travaille à leur profit. On enlève ceux qui les gênent. On enlève ceux qui sont déjà nettement mûrs, donc on les enlève aussi. Et ça amène des revenus qui, chaque fois, sont moindres que ce que peut apporter la coupe rase. Mais on travaille sur une plus grande surface, d'abord. Et c'est les avenirs qui, sur le long terme, je suis convaincu, sont les mêmes que celui de la coupe rase. Voilà.
Alors, juste, vous êtes, votre famille, votre père, je crois, était fondateur ou cofondateur, je ne sais pas, en tout cas, était à l'origine de la coopérative Bourgogne-Limousin, je crois que ça s'appelle. En tout cas, actuellement, c'est quand même, en gros, une coopérative qui suit un peu la logique majoritaire ici, qui est les coupes rases, les monocultures, les replantations, etc. Mais il semble qu'il y a aussi eu un petit... Ça bouge peut-être pas beaucoup, mais un petit peu, parce qu'apparemment, ils ont embauché quelqu'un, une femme, je crois, une jeune femme, qui s'occupe de ce genre de travail, d'aller vers un futé irrégulier, etc.
Oui, donc cette coopérative a été fondée au début des années 70 par mon père et un autre forestier, M. Brodin, un Corrézien. Ils ont fondé cette coopérative dans un esprit qui n'est plus celui qui n'est plus celui des coopératives d'aujourd'hui. Ils ont fondé cette coopérative pour, en quelque sorte, donner aux propriétaires forestiers une force de négociation en face de l'industrie du bois qui commence chez les sieurs. Alors que maintenant, les coopératives, les grandes coopératives, sont plutôt devenues des courroies de transmission qui viennent de l'industrie vers les propriétaires. Et à l'origine, ce n'était pas ça, mais c'est devenu ça. Bon, donc cette coopérative que je connais bien, dont je suis administrateur aussi, c'est à cette coopérative que je confie tous les travaux. C'est moi qui décide complètement la gestion de ma forêt, mais c'est à cette coopérative que je confie tous les travaux, depuis la plantation, l'entretien, les éclaircies, les coupes de ci, de là. Bon, c'est à eux que je continue à faire entière confiance. Cela dit, c'est parce que je connais un petit peu la forêt. Je suis capable de prendre moi-même toutes les décisions parce que je connais la forêt. ce qui n'est pas le cas de tous les propriétaires forestiers qui sont, c'est vrai, à la merci des coopératives.
Oui, parce qu'il ne montre pas forcément les différentes manières qu'on peut imaginer d'agir. Par exemple, il y a Paul Silva ou d'autres qui ont vraiment une autre approche. Et ça, bon, bah, ils n'expliquent pas vraiment ces différentes possibilités.
Non, non. Cette coopérative que je connais très bien est très, 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 très majoritairement en faveur de la méthode traditionnelle, plantation éclaircie couperase, sans se poser vraiment de questions. Cela dit, c'est vrai, ils viennent d'embaucher quelqu'un dont une grande partie de son intérêt forestier, disons, c'est ce type de gestion douce de la forêt, le maintien de la forêt continue. Alors, c'est sûr, elle est employée par cette coopérative, donc elle continue à faire le travail de cette coopérative, mais c'est elle qui a été mon principal conseil pour ce virage que je prends dans ma gestion forestière. C'est elle qui a vraiment déterminé les 50 hectares qu'on allait gérer de façon douce en forêt continue. Elle a appris complètement par cœur ma forêt.
Pour le moment, votre forêt, c'est un peu quasi la seule ou parmi les terres rares qu'elle gère comme ça pour la coopérative.
Je n'ai pas connaissance qu'elle intervienne de la même façon ailleurs encore. C'est vrai qu'en tant que membre de cette coopérative, membre du conseil d'administration aussi, je suis encore une bête curieuse. Voilà. Mais je ne désespère pas, je ne désespère pas. Il y a une expérience récente dans les instances de cette coopérative me montre qu'ils commencent à... Les propriétaires forestiers traditionnels, dont les opinions sont importantes pour les orientations de cette coopérative, commencent à prêter attention. En particulier, il y a le récent film de François-Xavier Drouet, Le Temps des Forêts. Ça fait dresser l'oreille à certain nombre de propriétaires qui gèrent traditionnellement la forêt. Et certains d'entre eux, qui ont de l'influence dans les coopératives, commencent à dire qu'il faut écouter ce qui se dit là aussi.
Il semble que ça a créé aussi pas mal de tensions, des gens évidemment qui se sont attaqués parce que leur manière de faire est très critiquée dans ce film. Mais vous voyez en fait aussi un début peut-être d'ouverture d'esprit.
Ah oui, bah oui, je le vois. Il me faut une petite dose d'optimisme pour le voir quand même. Mais oui, je crois que ça existe. Je crois vraiment nous sommes au début d'un changement. Nous sommes au début d'un changement, au moins dans cette région. Parce que dans cette région limousine, qui n'a pas une longue tradition forestière, tout est à apprendre. Et depuis les années 1950, 60, 70, la grande couverture forestière de cette région date de ces années-là. Et on ne s'est pas posé de questions. D'emblée, ça a commencé comme ça. Donc, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Donc, il faut qu'ils commencent à comprendre que ça peut être autrement. Donc, il faut du temps pour ça. C'est une conversion.
Et le film, bon, il y avait deux films, Le Bois Noir et ensuite Le Temps des Forêts, tous les deux par François-Xavier Drouet. Ils sont quand même pas uniquement, le deuxième film, pas uniquement centré sur le Limousin, mais quand même le plateau de Mille-Vaches, etc. Mais quand même beaucoup, beaucoup. Hein, c'est 25 minutes au début du film. C'est assez dur ce qu'on voit. C'est un peu déchirant, quoi, parce qu'on voit voilà, cette façon de faire qui, on a l'impression, fait énormément de dégâts, enfin, etc., etc. Comment c'est ressenti quand même ici dans la région? Parce qu'il n'y a pas que les propriétaires forestiers, il n'y a pas que des entreprises, il y a quand même des citoyens, des habitants qui ont, je crois, dans l'histoire, souvent trouvé qu'ils subissent la forêt quelque part parce que ça vient, vous êtes de Jonsu, je crois, donc c'est un village où, à ma connaissance, la forêt vient tout près du village, c'est très noir, il n'y a pas de d'oiseaux, il y a peu, pas beaucoup. Enfin, c'est pas la même chose que la forêt dans laquelle on se trouve maintenant, qui est très mixte et qui est plein de vie différente, quoi, diversifiée.
Oui. Les deux films de François-Xavier Drouet, le premier, donc Les Bois Noirs, et puis le dernier, Le Temps des Forêts, sont très différents, j'ai trouvé. J'ai réagi de façon complètement différente à ces deux films, bien qu'ils étaient construits à partir des mêmes ensembles de rushs à peu près, même si la géographie du deuxième est un petit peu plus large. Le premier film, il présentait beaucoup la forêt comme l'envahisseur. Et c'est vrai que dans la région autour de Jonsu, que je connais bien, c'est comme ça que la forêt est perçue par les habitants traditionnels du village. Vous faites une allusion au fait que le village est coincé dans la forêt. Je viens de supprimer la dernière parcelle forestière qui touchait le village. C'est peut-être ma dernière coupe rase, mais celle-ci, personne ne me l'approchera. Par contre, le deuxième film de François-Xavier Drouet, Le Temps des forêts, je ne l'ai pas reçu du tout de la même façon. D'abord, la forêt n'est pas présentée comme l'envahisseur. Dans ce film-là, on voit que c'est un film fait par quelqu'un qui aime la forêt, mais qui dénonce un système. Il montre des choses horribles dans le traitement infligé à la forêt par certains intervenants. C'est sûr que ce n'est pas la majorité des intervenants qui font comme ça. La plupart d'entre eux font un travail correct, mais il a montré des excès. Et en montrant des excès, il fait appel à l'intelligence du spectateur, le spectateur doit comprendre que ce sont les excès et d'où viennent ces excès, à quoi c'est dû. Pourquoi est-ce que certains intervenants sont conduits à utiliser leur abatteuse de façon systématique et lourde en écrasant le terrain et faire ça rapidement sans tenir compte de l'impact forcément négatif de la masse de cette machine sur le sol? Bon, pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils sont pressés par les banques. Ils sont pressés par tout un système économique et qui est en aval de la forêt.
Je pense aussi à cette énorme méga-scierie, on pourrait dire, cette énorme scierie, où tout est normé, tout est normalisé pour les chaînes de bricot, marché, enfin, etc. Et ça aussi, ça impose une certaine... Il y a une demande et ça impose ça... sa vision aussi chez les entreprises, les intervenants dans la forêt.
Oui, mais je vais donner un exemple. Je crois que François-Xavier Drouet le dit dans son film, je ne me souviens plus. La plupart des grosses machines, des grosses scieries, qui sont des machines, des gigantesques machines automatiques qui prennent le tronc à un bout, qui sortent des planches à l'autre, sans presque aucun intervenant humain. Ces gigantesques systèmes automatiques ne sont pas capables de traiter des diamètres d'arbres supérieurs à 35 cm à peu près. Quelle en est la raison? Ben c'est parce que ces machines, le sillage dans ces scieries est réalisé par des systèmes qui sont conçus dans les pays nordiques, lesquels pays nordiques scient des épicéas qui ne sont jamais très gros, et c'est à eux qu'on achète les machines. Donc ce sont ces machines-là qui impose aux forestiers de vendre ces arbres avant qu'ils aient plus de 35 cm de diamètre.
À un moment où ils n'ont pas été matures, quoi.
Et... À un moment, c'est couper le blé en herbe, quoi. Voilà. Là aussi, je suis un peu optimiste, parce qu'il y a eu une telle surface d'arbres, résineux en particulier, plantés dans le Limousin, en particulier sur le plateau de Mille Vaches, d'arbres dont la majorité c'est des Douglas, et une telle quantité que ces scieries-là vont pas être capables de tous les absorber et ces arbres ils vont grossir. Ils vont dépasser de loin les 35 cm de diamètre et on commence à entendre parler de scieries qui vont s'équiper de matériel nouveau pour scier ces gros arbres.
Est-ce que vous n'avez pas peur de l'expansion encore fulgurante, quoi, on pourrait dire, le bois énergie qui, là, on entend parler de chaînes assez magnifiques souvent qui peuvent partir en plaquettes ou en bois de chauffage. Même des gros arbres, ça peut être plus facile de simplement broyer et...
Si, ça me fait peur, bien sûr, parce que je n'ai pas envie de faire pousser les beaux arbres pour qu'ils soient brûlés. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'en ai pas encore perçu les conséquences dans cette région perdue du Limousin. C'est loin de Gardanne. Hein. Bien que bon, j'entends dire par des collègues forestiers ou gestionnaires que certains des arbres qui font couper sont conduits vers la broyeuse. Je trouve ça désolant. C'est peut-être mon optimisme naturel. Je ne pense pas qu'on va en souffrir beaucoup ici.
Mais il y a cette usine de pellets qui est prévue. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est aussi... Bon, c'est un peu expérimental, semble-t-il, mais si jamais ça fonctionne, ça pourrait être... parce qu'il n'y a, au fond, pas vraiment d'industrie de pellets actuellement en France. Et ce n'est pas que Gardanne, hein. C'est quand même vous et moi, enfin, plein de gens hein, qui ont des poêles à pellets dans leur maison. Il y a des chauffe-non, mais moi non plus, mais bon, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui ont ça. Et après, il y a des chaufferies au niveau même de Paris, mais aussi des petites villes. Enfin, ça commence à faire le volume. Hein.
Oui, cette usine à pellets, si je raisonne depuis ma place, qui est la place de propriétaire forestier qui aime la forêt, je trouve que c'est désolant. C'est concevoir ça, c'est ignorer complètement ce qu'est la forêt, ce dont tu as besoin, la forêt même d'ailleurs. Parce que dans le manifeste initial qui définit l'implantation de cette usine, ils disent qu'ils vont s'alimenter essentiellement à partir de dessouchage et les branchages. Je trouve que c'est du très 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 court terme. Dessoucher et ébrancher, c'est priver le sol de l'alimentation naturelle en minéraux nécessaires pour la croissance d'arbres qui vont suivre. Je ne sais pas, j'espère que la majorité des forestiers vont comprendre que c'est contre leur intérêt.
Par exemple, vous êtes donc administrateur de la coopérative. J'imagine que la coopérative n'a pas forcément pris position de compte, mais est-ce qu'il y a quand même un peu des doutes quoi, par rapport à telle évolution?
Oui. Non, ce genre d'évolution ne favorise pas la forêt. La coopérative, quand même, son objectif premier, c'est la forêt. Et si une usine comme ça, à terme, de façon indirecte bien sûr, mais à terme, détruit le sol, donc handicape la croissance de forêts, pas pour demain, mais pour après-demain. Oui.
D'accord. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voulez rajouter. En tout cas, je pourrais peut-être demander les 50 hectares. Est-ce que vous avez l'optimisme de penser que vous allez dépasser aux 250 hectares de votre forêt à un moment donné?
Oui. C'est mon intention, mais c'est pas moi qui le ferai. C'est mon intention. Disons que les 50 hectares qui ont été choisis pour amorcer ce type de gestion douce, ça n'est qu'un début. C'est difficile de penser à gestion de forêt irrégulière, à forêt continue, sur les arbres plus jeunes, qui ont été plantés dans la tradition, bien en ligne, etc. J'en ai fait planter moi-même, hein, des hectares et des hectares qui sont comme ça. Pour cela, c'est beaucoup trop tôt pour se poser la question et pour prendre une décision, en quelque sens qu'il soit. Par contre, c'est dans les forêts anciennes, à partir de 40, 45 ans, que là, on peut se dire, ben, dorénavant, toutes les interventions que je ferai là-dedans, ce sera dans le style forêt continue. Je veux que ce terrain-là reste en permanence sous un couvert forestier.
Au fond, ça veut dire ce que Hans Kreisler a expliqué un peu avant, c'est de favoriser les trouées, comme on dit, des endroits où d'autres arbres peuvent venir, c'est ça?
Oui, enfin, c'est multicritère. Hein. Il faut choisir les arbres dont on pense que ce sont les arbres qui vont structurer, les arbres d'avenir qui vont structurer la forêt pendant quelques décennies, voire plus. C'est comme on part d'une forêt régulière où la lumière ne pénètre pas beaucoup, c'est aussi faire des trouées pour que la lumière rentre, pour que le semis naturel puisse démarrer. S'il ne démarre pas, ben, c'est là qu'on ira planter des arbres, des petits plants. C'est vraiment multicritère. Disons que dans la gestion traditionnelle des forêts, quand on fait une éclaircie, la première éclaircie qu'on fait, c'est on choisit, soit on enlève toute une rangée d'arbres, toutes les cinq rangées, c'est pas la peine de penser beaucoup pour le faire.
C'est très mécanique en fait.
C'est très mécanique. Ça a l'avantage de la simplicité, la gestion traditionnelle. C'est pas la peine de penser beaucoup. C'est à tel âge, pof, on fait telle chose. Voilà. Tandis que la gestion à couvert continu, c'est arbre par arbre. On le regarde chacun, on se dit, est-ce que c'est celui-là qui a de l'avenir? Est-ce qu'il gêne celui qui a de l'avenir? Est-ce que vraiment il n'a pas d'avenir? Mais est-ce que, du point de vue forestier, mais est-ce que quand même son couvert a de l'utilité pour l'environnement où il est? Enfin, il faut se poser plein de questions comme ça. C'est une gestion qui demande un petit peu d'intelligence.
Ce qui est beaucoup plus intéressant et passionnant, j'imagine, mais qui prend du temps.
Qui prend du temps, et puis de la force physique aussi. Il faut quand même marcher, beaucoup marcher. Ça me plaît.
Très bien, merci. C'était Vive l'irrégularité. Première partie. Il s'agit de la 24e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Si
Si vous souhaitez trouver plus d'informations sur le RAF, consultez son site www.alternativeforestiere.org où vous pourrez également réécouter ou télécharger cette émission. Toutes les musiques qui ont accompagné cette émission sont extraites du très beau disque qui s'appelle Tapestry du groupe irlandais Nava.